Bienvenue au Polysécur épisode technique, je suis accompagné de Yann. Est-ce que tu peux te présenter?
Hey, bonjour. Moi, c'est Yann Bellerose. Je suis Customer Engineer, donc un spécialiste en ingénierie chez Google Cloud. Je passe mes journées parler de sécurité, faire de la sécurité. C'est vraiment ce que je fais depuis plus 20 ans là, au travail de différentes entreprises. Pas chez Google, mais au travail de différentes entreprises au Québec.
Ben, comme la plupart des experts en sécurité, tu as vu plusieurs choses. Mais ce coup-ci, on va s'intéresser à ce qui se passe chez Google. Et le premier sujet, ça va être CloudArmor, qui est quand même très intéressant parce qu'il y a plusieurs facettes et aide les clients à souvent se dépêtrer et à réduire leur facture de sécurité en cas d'incident.
Oui, non, CloudArmor, c'est vraiment un super beau produit qui est pas très connu, qui est mal connu en fin de compte dans le domaine. CloudArmor, qui est vraiment une solution qui a deux facettes. Vraiment une solution au niveau DDoS puis une solution WAF. Donc, vraiment une solution qu'on va être capable de déployer devant nos applications, devant nos solutions pour se protéger justement contre des attaquants quelconques là, qui vont tenter d'accéder à notre application. Puis on parle vraiment de solutions DDoS, là, niveau level 2 jusqu'à L7. Donc, L2, L7, on couvre vraiment quand même très, très large. Puis au niveau WAF, quand même un peu un classique, là, le fameux Top 10 OWASP, mais aussi plus récent, le Log4j, on va parler de geofencing, on va parler de rate limiting. Donc, plusieurs capacités là, qui sont là au niveau de CloudArmor.
Mais au niveau, dans son ensemble, ça, c'est sûr, c'est les capacités de base. Mais j'imagine que ces capacités-là sont alimentées un peu par l'intelligence artificielle qui vit chez Google, qui est quand même, à mon avis, en avance sur bien ce qui est disponible sur le marché. Là.
Ça, c'est la beauté justement de CloudArmor. Ça fait pas très longtemps que le volet intelligence artificielle a été intégré à l'intérieur de CloudArmor. CloudArmor, depuis peut-être 6 mois, 1 an, on va offrir vraiment une version avancée du produit. Qui, lui, en fin de compte, avec l'intelligence artificielle, analyse l'ensemble des requêtes qui sont faites. Donc, on va vraiment créer un baseline au niveau applicatif. Donc, on déploie la solution CloudArmor devant l'application. On mesure, puis même si le WAF n'était pas là avant, c'est pas grave. On regarde dans le passé parce qu'on regarde au niveau des logs. Donc, on est capable quand même de le partir puis d'analyser tout ça. Et là, avec notre baseline, on est capable, selon les requêtes qui sont faites, de vous envoyer de l'information, envoyer une alerte en disant « Oh, là, il y a un changement qui est fait au niveau des requêtes qui sont faites vers l'application. » On voit, ça peut être autant DDoS qu'autant WAF, donc des types d'attaques qui sont en train de se passer ou un volume qui va augmenter un peu trop rapidement. On vous envoie une alerte, mais on ne prend pas d'action automatique. Donc, vous êtes tout le temps responsable de décider si vous appliquez ces changements-là. Ça reste l'intelligence artificielle. Donc, on aime quand même garder un humain qui va jeter un œil à cet élément-là avant de prendre la décision. Ce qui est important, c'est de gagner confiance en l'intelligence artificielle.
C'est un aide à la décision, là, essentiellement. Là, l'humain demeure toujours l'ultime responsable.
Là. Exact. C'est exactement l'objectif de la portion d'intelligence artificielle. La portion de l'intelligence artificielle, à un moment donné, justement, va renvoyer un message de dire « Voulez-vous appliquer cette nouvelle règle-là parce qu'on voit un trafic différent? » On l'applique et c'est instantané. Donc, juste cet élément-là qui est fait de façon automatique, en cas d'incident, en cas d'attaque, on parle d'heures de sauver. Là. Dans certains cas, ça peut être des jours même qui vont être sauvés en juste définir la bonne requête qui va être appliquée pour réduire, même si l'intelligence artificielle ne nous donne pas la requête qui va bloquer 100% de ce qu'on souhaite, va déjà limiter, donc va nous aider à contrôler l'attaque qui est en cours en ce moment. Là. Puis ça, on l'a vu en action dans les derniers mois avec des clients. Là.
Effectivement, puis un peu en off, tu me parlais un peu de la structure aussi, comment chez Google ça se fait, parce que ces protections sont intéressantes. Là, on va parler sur le volet plus DDoS. Comment ça se présente pour un client? Parce que quand ils sont hébergés chez Google, nécessairement, ça va rentrer. Et c'est tout le chemin d'interception qui était très intéressant et qui est pour une entreprise qui n'utilise pas du cloud est anormal ou non habituel de cette façon-là. Donc, elle a des avantages qui sont inhérents à la structure de comment Google est fonctionné. Fonctionne et structuré. Fait que j'aime ça un peu justement que tu d'abord cet élément-là d'architecture que les gens ont peut-être saisissent pas bien, là.
En fait, ce qui est intéressant, souvent, on va partir avec l'exemple classique. Donc, on est sur site, on héberge nos systèmes sur site. Nos requêtes vont rentrer, sont déjà sur notre réseau, sont déjà sur nos équipements. On est déjà en train de payer pour analyser une requête qu'on veut pas, finalement. Donc, une attaque volumétrique, une attaque, peu importe qui est faite, on est déjà en train de le faire. Au niveau cloud, puis avec Google, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes couches. Parce qu'avant qu'on atteigne, par exemple, Google Cloud, puis même notre service hébergé dans Google Cloud dans une région au Canada, on est déjà à plusieurs couches beaucoup plus loin du début. Donc, ce qui est important, c'est de bloquer la requête le plus en amont possible. Dans ce cas-ci, le plus proche du Edge Google. Donc, vraiment le plus proche là, entre Internet et Google. Là, c'est là qu'il peut y avoir un petit flou, là, mais la portion d'Internet, là, on est sur Internet, on rejoint Google, on rejoint les services, puis après ça, on va descendre dans le stack jusqu'à rejoindre notre application. Cloud Armor, on va essayer de le mettre le plus proche possible du Edge. Donc, on rentre déjà sur le réseau de Google, et puis là, on va aller frapper le deuxième niveau, qui est plus le Edge qu'on va appeler Cloud. Et à ce niveau-là, c'est là qu'on va activer Cloud Armor pour vraiment le faire avant même que ce soit sur notre réseau. Donc, si on a défini un VPC, par exemple, on a nos routes, on a nos choses, on a nos services. Avant ça, on veut analyser la requête, s'assurer que la requête va être retirée en cas de requête qui est non nécessaire ou on va l'accepter. Et même avant ça, même au Edge de Google, dans un cas d'une vraiment une attaque volumétrique générique qui va être envoyée, Google va absorber une grosse portion. Puis après ça, nous, on va juste renvoyer certaines requêtes très spécifiques vers la portion cloud. Donc, il y a vraiment plusieurs niveaux. On parle peut-être de 4 niveaux qui est là. Donc, la première au Edge, Google va absorber. Au deuxième niveau, c'est là que Cloud Armor va être installé. Puis c'est là que vous avez du contrôle en tant que client pour décider qu'est-ce que vous voulez appliquer, quelles règles que vous voulez appliquer, puis ce qu'on appelle le fine-tuning au niveau de l'application, là, parce que c'est toujours là que c'est un petit peu plus, je veux dire, entre guillemets, compliqué, parce qu'il faut vraiment s'assurer qu'on va aller bloquer seulement les requêtes qu'on ne veut pas versus ceux qu'on souhaite.
Oui, puis c'est intéressant parce que pour la plupart des gens, en tout cas de moi, ce que j'entends dans mon entourage, l'info nuagique, c'est juste avoir un CTI ailleurs. Ou dans la façon la plus simplifiée, la plus crue, c'est un ordinateur ailleurs. Et dans ce cas-ci, c'est clairement, ce n'est pas ça parce que c'est un ensemble d'infrastructures, dans le cas, du moins dans le cas de Google, dans lequel on prend. Parce que là, il y a plusieurs niveaux, tu parlais de 4 niveaux. Donc, mes 4 niveaux, c'était loin de ton CTI à 4 niveaux. Là. T'es pas, puis donc, tu as de l'intelligence cloud qui est placée à plusieurs structures dans lesquelles les gens ont de la misère à architecturer ou à imaginer. Là.
Mais c'est sûr que c'est un peu plus complexe que quand on va le regarder sur site. Quand on va le regarder sur site, on pourrait s'imaginer si, par exemple, notre fournisseur Internet ferait une portion de ce travail-là pour nous avant même. Mais c'est nous qui a quand même un contrôle, décider est-ce que je l'active, est-ce que je le désactive, mais c'est pas encore rendu sur mon réseau. Donc, c'est là que c'est quand même intéressant parce qu'on est capable vraiment de découper par différentes couches et que ces options, c'est vraiment en option. Donc, les gens décident d'appliquer ou non ce genre de protection-là. Généralement, les gens commencent à les appliquer après un incident, malheureusement.
Ouais, c'est souvent le cas. Là, c'est sûr qu'il ne faut jamais perdre un incident comme étant un levier d'amélioration en cyber, mais c'est juste malheureux qu'on doive quand même attendre cet incident-là pour bénéficier de toutes ces mécaniques-là. Là.
Mais on a des clients qui, eux, ont décidé de l'activer d'avance parce qu'ils se sont dit justement, en voyant tout ce qu'on a dans les médias, tout ce qu'on entend partout, tous les systèmes qui sont sous attaque un peu partout, ils se sont dit non, nous, on veut se prémunir d'avance de ce genre de solution-là. Donc, on a vraiment des clients qui ont fait ça. Puis, on a des clients que ça leur a sauvé énormément, mais énormément de soucis, de maux de tête, puis d'argent aussi. Donc, c'est vraiment les deux, là. Parce que le DDoS va couper notre service qu'on va offrir à nos clients. Vraiment, quand on va arrêter le service, mais comme on parlait tantôt un peu off, la portion EDOS, qui est vraiment le economical DDoS, là, qu'on va aller vraiment juste ajouter des requêtes à un service à côté, pour augmenter le coût d'offrir le service versus le sien, donc souvent entre compétiteurs. Donc, le eIDAS est moins connu, mais existe aussi. Donc, comment se prémunir de ce genre d'attaque-là de notre compétition? Ça peut faire partie de ça en regardant que notre trafic est peut-être pas ce qui était à la base. Là. Notre baseline est différent.
Oui, mais c'est sûr que si on le prend justement en edge, puis c'est ça, puis je reviens encore, c'est pas naturel pour les gens de le réfléchir comme ça parce qu'ils réfléchissent leur CTI. Ils réfléchissaient leur CTI sur site comme étant un monolithe. L'infologique n'est plus ce monolithe-là dans lequel il faut le réfléchir, le décortiquer. Tu l'as bien mentionné aussi, quand que les requêtes sont arrêtées au edge, il y a peu ou pas de charge qui est faite sur la consommation des services. Fait que pour le client qui reçoit une charge immense, tu me parlais d'un client qui a été bombardé sauvagement. Lui, ses coûts réels que Dieu a encaissé ont été probablement très moindres que s'il avait été direct et sans protection.
Mais oui, effectivement. Ce client-là en particulier, puis ça, c'est une belle victoire de Cloud Armor. C'est arrivé en début juin. En fin de compte, ce client-là a reçu...
2022, parce que là...
2022, oui, effectivement.
Parce que la diffusion va se faire en 2023.
Oui, début juin 2022, ce client-là a vécu cette attaque-là. Ce client-là avait pris la décision d'appliquer Cloud Armor. Donc, voulait vraiment mettre ça en place. Oui, pour la portion DDoS, la portion WAF est importante aussi. Dans leur cas, le DDoS est vraiment la portion qui a été clé. Et dans leur cas, ils avaient pris la version Advanced, donc avec la portion AI. Ce qui est arrivé, c'est vraiment au courant de la matinée. La portion AI a embarqué puis a averti les équipes en leur disant « Il y a des requêtes anormales basées sur vos requêtes de tous les jours avec une quantité supérieure à la normale. » Donc, on vous recommande d'appliquer cette règle-là. L'équipe a jugé que c'était adéquat d'appliquer cette règle-là parce que ce n'était pas du trafic qui était normal pour leur système. Donc, on a décidé d'appliquer la règle en compte. Puis, heureusement, parce que une heure environ après, là, je peux être à 30 minutes off, là, mais une heure et demie après, les requêtes ont monté, mais de façon exponentielle. Donc, on a atteint environ 46 millions de requêtes secondes sur le service. Mais ça ne se rendait pas au service parce que, comme je disais, on a frappé, la requête frappait le Edge Google, frappait le Edge Cloud et le Edge Cloud avec Cloud Armor et la règle les bloquait. Donc, il y avait vraiment un 46 millions de requêtes secondes qui étaient bloquées à ce niveau-là. On les voit au niveau statistique, donc on les voit vraiment à ce niveau-là. Ce qui est intéressant avec cette attaque-là, c'est qu'au nombre d'attaques de requêtes secondes, c'est la plus grosse attaque qui n'a pas été faite là, à ce temps-ci. C'était 76% plus gros que ce qui avait jamais été fait au niveau de nombre de requêtes secondes sur un service. Si on veut comparer, parce que c'est dur à imaginer, 46 millions de requêtes secondes, c'est un chiffre, mais c'est dur à visualiser ou à comprendre. Si on prend par exemple Wikipédia, Wikipédia est dans le top 10 des sites les plus visités dans le monde, bien, on parle que en 10 secondes de requêtes sur ce service-là, c'est l'ensemble des requêtes de la journée sur Wikipédia. Donc, une journée de Wikipédia, 10 secondes sur le service, c'est l'équivalence. Et cette attaque-là a duré à peu près une heure. Donc, il y a eu énormément. Le pic était à 46 millions. Après ça, on voit vraiment une descente au niveau des attaques. Le client n'a pas eu d'impact côté service. Le client a pu continuer à travailler, à offrir ses services, à travailler. Les employés ne se sont pas rendus compte. Les équipes de sécurité, les équipes techniques étaient un peu plus nerveuses. Je pourrais dire, mais... Les employés ne se sont pas rendus compte et puis il n'y a pas eu de problème au niveau service. Donc, on a vraiment vu que la portion d'intelligence artificielle, le AI, est vraiment venu au secours de l'humain à ce moment-là. Mais l'humain a pris la décision d'appliquer cette règle-là pour s'assurer le bon maintien des services-là.
Est-ce que tu as une décision éclairée dans ce cas-ci? On parle beaucoup du volet peut-être plus DDoS, le volet WAF qui est quand même plus attaque web, qui est quand même un peu plus... moins rough ou moins direct, est un peu plus subtil. Comment celui se représente dans Cloud Armor?
Mais souvent, souvent quand on va regarder Cloud Armor puis que les gens vont regarder Cloud Armor, c'est souvent pour la portion WAF, en fait, qu'ils vont regarder avant même la portion DDoS. La portion DDoS, c'est presque la cerise sur le Sunday. Mais la portion WAF, en fait, à la base, le système est livré complètement vide. Donc, il est là. Et puis, on vous donne la liberté, on vous permet de mettre les règles, en fin de compte, que vous voulez. C'est sûr qu'on vous aide parce qu'il y a déjà des règles qui sont, ou des patterns, on voulait dire des appels qu'on peut faire. Par exemple, si on dit bloque les SQL injection, mais SQL injection va être bloqué au niveau des règles. Puis en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on n'invente pas nécessairement un langage ou on n'invente pas nécessairement le regroupement au niveau de ces requêtes-là. On travaille vraiment avec le Mod Security Core Rule Set. Donc, on est vraiment basé, on est attaché avec eux. Donc, on est vraiment capable de regarder qu'est-ce qui fait partie du Core Rule Set, puis c'est vraiment ce qui est appliqué. En ce moment, je pense qu'on vient juste de passer à la version 3.3 du Core Rule Set. On était à 3.0, là, on a été pendant un an et demi au moins, là, si ce n'est pas plus, là, avec la version 3.0. On vient juste de passer en 3.3. Et puis, donc là, on est capable vraiment d'aller... Quand on va voir le Core Rule Set, on voit qu'est-ce qui est fait, on est capable de le réappliquer. Donc, on parle vraiment généralement du top 10 OWASP qui va être bloqué, tous ces éléments-là. Et des fois, malheureusement, notre application est codée d'une façon que un SQL injection, un cross-site scripting est détecté puis il ne devrait pas. Donc, c'est assez facile avec la solution de dire, ben, applique-moi toutes les protections de SQL injection que tu as, par exemple, sauf la telle version. Puis là, on est capable de retirer ceux qu'on ne veut pas ou on va dire, applique-moi seulement ceux-là, sauf toutes les autres. Donc, on est capable vraiment de travailler dans les deux sens au niveau...
Avec les rule sets de mode sécurité essentiellement. Là.
Oui, exactement. Il y a une manière vraiment de les appeler. C'est bien écrit au niveau de la documentation. Donc, ça, vraiment, au niveau du top 10 OS, c'est vraiment... Ça, c'est bien, bien couvert de ce côté-là. Ce qui est quelques-uns qui sont très populaires aussi, le Log4j, qui est très populaire, qui ne fait pas nécessairement partie du top 10 OWASP.
Inévitable maintenant.
Inévitable, il faut en parler. Ce qui est intéressant avec le Log4j, c'est qu'à la base, ça fait partie un peu des custom rules qu'on peut appliquer. Et puis, je crois 2 jours après que Log4j était publiquement annoncé, Google, on donnait tout de suite la règle à appliquer dans les applications qui étaient protégées par Cloud Armor. Pour justement éviter les attaques Log4j. Ce qui était quand même assez rapide au niveau à l'époque quand ça a sorti. Maintenant, les gens l'appliquent pratiquement de facto. Mais ce qu'on voit, c'est que justement, maintenant, on a développé une mécanique qui va nous permettre d'ajouter dans le futur d'autres problématiques. Donc, on va être capable, nous, de sortir des règles un peu custom à appliquer. Sinon, un autre qui est quand même intéressant que je vois. C'est la portion, le limiteur de requête, le rate limiting qui va être fait. Et le geofencing, donc bloquer certains pays pour accéder à nos applications. Encore là, pour ce que ça vaut de bloquer soit un IP, soit un pays. Encore là, bon, ça c'est très discutable de ce côté-là, de ce qu'on peut faire avec ces applications-là.
On peut débattre très longtemps du geofencing, là. C'est une mesure, à mon sens, disons, limitée. Pour un attaquant sérieux, ça vaut rien. C'est ça, on est clair, ça va limiter, ça va bloquer l'attaquant non sérieux, puis c'est à peu près tout, parce que, puis à la limite, je ne sais pas si ça s'est appliqué dans votre cas, mais ils vont détecter les VPN ou les nodes Tor, mais c'est à peu près tout. Ils vont sortir les choses les plus classiques, mais la réalité, c'est que les vrais attaquants n'utilisent pas ces chemins-là. Parce que c'est pas ça qu'ils vont utiliser. Là.
Non, exactement. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Ça reste quand même une configuration qui est très populaire. Très, très populaire, je dirais. Plusieurs des clients sont intéressés à mettre ça en place. Mais bon, ça a quand même sa limitation. Même chose au niveau IP.
Ça enlève le bruit de fond.
Exact. Ça enlève le bruit de fond. Ça donne un... C'est un... entre guillemets, faux sentiment de sécurité, mais c'est ça. La capacité est là. La capacité est disponible de ce côté-là. Puis après ça, ce que je trouve très intéressant avec Cloud Armor, souvent, c'est qu'on regarde ça puis on se dit, OK, j'ai beaucoup de configurations à faire pour essayer juste de le mettre en place. C'est une solution qui est là et qui est, premièrement, moi, je suis un fan de l'automatisation. Tout ça est terraformable. Donc, en mode, on peut le déployer directement par l'interface, on peut le déployer par API. Moi, ce que j'adore le plus, c'est par Terraform. Donc, moi, j'ai développé des modules qui sont déployables rapidement chez mes clients. Donc, un client qui a un workload qui est là avec un load balancer qui est le requis, en moins de 10 minutes, tout est fait. Puis, on a pris un café. Donc, dans les 10 minutes, on a réussi à même à prendre un café là-dedans. La chose qui manque, par contre, que j'ai pas, ce qui est super important à dire, c'est que là, c'est mis en place. Là, il faut faire du fine-tune. Et là, il faut ajuster.
Il faut l'opérer.
Mais même avant de l'opérer, il faut apprendre à ajuster pour notre application. Je vais juste donner un exemple. Je déploie Cloud Armor, mais moi, c'est un API que je protège. C'est des JSON qui vont passer. C'est très important au niveau de la configuration d'indiquer que ça va être des JSON qui vont passer. Si je n'indique pas que c'est un JSON à Cloud Armor, lui, il va penser que c'est des requêtes normales. Et puis là, il va commencer à crier, à bloquer, à arrêter des choses et briser le workflow. Et là, c'est là qu'on peut rencontrer des frustrations en utilisant le produit. Donc, il faut juste s'assurer qu'on va y aller avec les bonnes étapes, les bonnes configurations et, bien sûr, s'assurer d'avoir le mode preview. Donc, avant de déployer des règles, on les met en preview. On analyse
au log. Jamais mettre en production direct pour le nombre de fois que j'ai vu faire des affaires de même. Ça brise tout. Surtout quand on ne maîtrise pas la technologie. Puis, le WAF est probablement la technologie la plus intrusive au niveau du web parce qu'elle brise les présomptions qu'on peut avoir et les espèces de raccourcis des fois qu'on a pris qui n'étaient pas nécessairement très propres mais qui fonctionnaient vont généralement être arrêtés par un WAF.
Hey, c'est ça. Là, c'est là qu'on se rend compte l'importance d'avoir des équipes de DevOps. Pour que notre équipe d'opération qui est en train de déployer le WAF comprenne l'application. Et sinon, il faut venir faire venir les gens d'application pour travailler là. Mais là, il y a des concepts réseau qui vont se perdre ou de déploiement au niveau du cloud. Donc, c'est pour ça que c'est un tout. Ça se fait. Il n'y a aucun problème. On est capable de le faire. Ça prend juste un petit peu plus de temps à ajuster toutes ces règles-là. Mais dès qu'on a une équipe DevOps en place, par exemple, déployer ça, on augmente encore là, la vélocité de déploiement. Le mode preview de ces règles-là est magnifique parce que le log qui nous est fourni est exactement la même chose que ce qu'on aurait en production. Il y a juste un attribut qui nous dit que c'est en preview et qui ne va pas bloquer la règle. Donc, on est vraiment capable de tester, faire des tests, voir ça va-tu fonctionner. Est-ce que non? Est-ce que je suis trop serré dans mes règles? Par exemple, moi, quand je déploie chez un client, je mets ça le plus solide possible. Donc, je mets tout au maximum, en mode paranoïaque partout. Puis après ça, on desserre la vis un peu tranquillement pour voir parce que là, l'application souvent ne fonctionne plus. Donc là, on baisse le niveau pour comprendre aussi. Puis en baissant un niveau, ça crée pourquoi. Puis là, on est capable d'analyser la requête, comprendre, puis prendre la décision. Est-ce qu'il faut corriger l'application ou est-ce que c'est normal puis on accepte que cet élément-là ne sera pas couvert?
Oui, puis je trouve ça important que tu l'abordes sur le fait que tu le montes au maximum puis tu redescends. Parce que j'ai tendance à voir le contraire, c'est-à-dire on part de genre pas élevé, puis on monte jusqu'à temps que ça crie le premier coup. Puis généralement, ça crie vite. Puis t'as pas besoin de monter très haut avec ça crie, fait que finalement, tu ne bénéficies pas de l'ensemble de tout ce que ça pourrait donner. Quand on prend de l'autre côté, c'est de descendre à tout fermer vers l'ouverture, ce qui devrait être normalement la philosophie en sécurité, mais qui n'est pas appliquée. Et là, tu adaptes justement dans un sens positif. Y a-t-il des mécaniques automatiques qui peuvent aider ou c'est vraiment manuel dans l'ensemble, comme dans le fond la plupart?
Comme un peu la plupart, c'est sûr que tu sais, il y a des techniques qui vont exister là, qu'on peut déployer. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est à tous les jours, je vais baisser d'un niveau, analyser mes requêtes, voir vraiment ce qui a été bloqué, ce qui n'a pas été bloqué. Et puis, vraiment travailler le plus proche possible avec les développeurs, là, comprendre l'application. Comprendre l'application, c'est vraiment la clé parce que c'est là qu'on est capable de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis c'est rendu une clé là, en sécurité de comprendre ce niveau-là aussi. Là.
Ben, c'est fondamental. C'est plate de devoir le répéter, mais c'est fondamental. Un, il faut être proche des équipes. On n'est pas dans sécurité, on n'est pas dans le tour d'ivoire. On est avec les autres. Fait que de travailler, avoir justement une belle relation avec les développeurs d'applications, c'est essentiel parce qu'ils vont être capables de nous expliquer comment fonctionne et ça va nous sauver tellement de temps à essayer de trouver pourquoi ça ne marche pas. Quand on s'est assis avec les gars ou les filles, je ne veux pas être genré. Les dudes, parce que c'est pour moi, un dude, ça n'a pas de genre, c'est juste un dude dans l'univers. Bref, le dude de développement qui est là, qui va nous expliquer comment fonctionne son système puis comment il a trippé. Puis cette espèce aussi, il faut le reconnaître parce que lui, il a trippé à faire son affaire. Il ne faut pas qu'on casse son trip avec nos affaires de sécurité. Donc, il faut arriver à une espèce de communication, un flux, je ne sais pas, du DevOps. C'est une stratégie qui n'est pas toujours, à mon sens, bien appliquée, mais bref, c'est une stratégie qui, justement, nous a aidé à cette espèce d'harmonie-là qu'on peut avoir entre la cyber et le développement dans le déploiement d'un WAF. Là.
Non, c'est vraiment la clé. Les fois que je l'ai vu pas bien fonctionner, c'était vraiment des tours indépendants. Les gens de sécurité, ils ont un requis d'appliquer un WAF, soit que ça fait partie d'une conformité qu'ils doivent respecter ou qu'ils ont eu un incident puis ils doivent répondre à l'incident en prenant une action. Mais les fois que ça fonctionne, c'est quand le développement est impliqué, quand les gens d'opération sont impliqués puis là qu'on comprend comment ça fonctionne. Fait un déploiement avec des clients récemment puis effectivement, c'est ça. Tout le monde était là autour de la table. Donc, on en a parlé, on a fait des tests, on a défini certaines configurations très précises qui étaient importantes. Les développeurs étaient autour de la table, ils étaient capables de nous dire avant même de mettre en place, ils ont dit celui-là, ça ne fonctionnera pas parce qu'on attend tel type de requête. Donc, on a déjà commencé à faire un travail de configuration. Et puis ça, c'est pas nécessairement propre à CloudArmor. Toutes les WAF, toutes les solutions de sécurité qui vont analyser les requêtes applicatives doivent être ajustées au type d'application. Il n'y a pas deux applications pareilles. Sinon, ben, ça serait beaucoup trop facile à sécuriser, puis après ça, beaucoup trop facile à hacker. Donc, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs.
Ben, effectivement, c'est de toute façon, c'est toute la couleur d'Internet est basée sur cette diversité-là. On a fait un grand tour. Y a-t-il d'autres choses qu'on n'a pas abordées sur CloudArmor que tu croirais qu'il serait important qu'on aborde?
CloudArmor, même si tantôt je parlais de la portion qui avait de l'intelligence artificielle, c'est vraiment adapté à tous les types d'entreprises. Vraiment, grande entreprise, PME, petite entreprise, parce qu'on est capable de décider vraiment du type de forfait qu'on veut acheter. Là, vraiment, ça peut être à la requête qu'on va payer des fractions au-dessous, là, parce que ça fonctionne avec des millions de requêtes. Donc, on est vraiment capable d'adapter ce qu'on veut pour notre application, notre besoin, puis payer vraiment juste qu'est-ce qu'on a besoin de faire, sans avoir besoin justement de se munir de boîtes, de faire des mises à jour, configurer, mais que je peux de maintenir un système une fois que c'est mis en place pour notre application, sauf si on a un changement applicatif, ça reste assez facile à maintenir une fois que c'est fait. Donc vraiment un service géré assez facile, un à déployer puis à maintenir une fois configuré.
Ben, c'est aussi l'avantage de l'info nuagée, justement, de pouvoir déléguer tout ce travail-là à un tiers qui est généralement meilleur que nous pour faire quelque chose. Je te remercie énormément. Premier segment, très intéressant. Très hâte d'entendre le suivant.
Merci à toi.
Merci.